13h29, vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021, 88-971-1021. C'est un feu roulant ce show-là, on va rejoindre Martin Bourget d'Aventure Chasse-Pêche. Il est président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Bonjour Martin Bourget, comment allez-vous?
Ça va super bien, vous deux, comment ça va?
Bon, on est content de te jaser. Les chasseurs avec les propriétaires d'armes à feu, est-ce qu'ils suivent avec une grande attention justement ce qui se passe au niveau fédéral pour ce qui est des élections? Ils sont-tu plus Mark Carney? Ils sont-ils plus Pierre Poilievre? Est-ce qu'ils sont plus Jack Meeting? Est-ce qu'ils sont plus Parti Vert? Est-ce qu'ils sont plus... j'en oublie-tu un? Non, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Et, suivez-vous ça, les propriétaires d'armes à feu?
Énormément, parce que tu sais, il y a à la base un énorme dossier qui provoque énormément d'émotivité chez les chasseurs, les tireurs sportifs et les collectionneurs qui résident dans la loi C-71 et la loi C-21. On se souviendra que le 1er mai 2020, par un décret en conseil, Justin Trudeau a amorcé le bannissement d'énormément d'armes à feu, donc le contrôle accru sur les armes à feu. Et à ce moment-là, il nous avait annoncé qu'il allait mettre en place des lois pour protéger, on se souviendra, la sécurité publique face à la criminalité armée. Mm-hmm. Au bout de la ligne, c'est nettement pas ça qui s'est passé. Alors, c'est sur deux plans présentement, les chasseurs, tireurs sportifs et collectionneurs ne veulent pas voir les libéraux passer parce que, définitivement, il y a une intention de continuer dans le programme de contrôle des armes à feu, mais dans le mauvais bassin d'armes à feu. Là, on a vu en plus Nathalie Provost qui se présente comme dans son comté, dans Châteauguay. Donc, évidemment qu'il va se ramasser au niveau de la sécurité publique comme lieutenant dans le dossier du contrôle des armes à feu. Alors ça, c'est un premier point. Surtout que tout ce qui a été mis en place, les bannissements, les nouvelles réglementations, touchent un bassin qui ne commet pas de crime au Canada.
Mais c'est ça. Le point principal, c'est ça. Plutôt que de se concentrer sur les armes qui proviennent des États-Unis, qui transitent vers les qui transitent vers les réserves amérindiennes, puis par la suite arrivent au Canada, on se concentre à essayer d'enlever le plus possible les armes à feu pour les chasseurs. T'sais, c'est pas ils n'ont pas empêché la criminalité d'augmenter au Canada là, en empêchant les chasseurs d'avoir des armes à feu. Au contraire.
Au contraire. Puis tu sais, c'est là où est-ce que le parallèle, il y a comme un virage à 90 degrés dans un parallèle qui est très, très, très important et qui regroupe la majorité des propriétaires d'armes à feu. Les propriétaires d'armes à feu ont toujours été les premiers à militer pour la sécurité dans le maniement des armes à feu. Ce sont des êtres humains qui aiment les êtres humains et qui appuient énormément la sécurité. Là, à un moment donné, il y a un clash majeur qui se fait où est-ce qu'on voit la très grande majorité des propriétaires légitimes d'armes à feu se dire, bien là, à la limite, là, le combat, il n'est même pas au niveau de conserver nos armes à feu. Là. C'est pas là, le point sur la table, on veut garder nos armes à feu à tout prix, etc. Non, le combat est beaucoup plus profond que ça. Le combat est le suivant. Le combat, c'est qu'on nous a proposé des lois pour protéger la population et que jamais dans l'histoire, on a vu des augmentations aussi élevées dans le trafic humain, la pornographie juvénile, les crimes avec armes à feu, l'extorsion de personnes âgées. C'est incroyable ce qui se passe présentement.
Mais t'es pas en train de dire que ça a exacerbé ça?
Ben, non, pas que ça l'a exacerbé, malgré que dans les crimes avec armes à feu, si vous vous souvenez, il y a Radio-Canada avait fait sur le terrain un documentaire avec un trafiquant d'armes à feu dans un pit de sable. Puis le trafiquant d'armes à feu expliquait à quel point la loi C-71 et la loi C-21 donnaient énormément de fioul au marché noir des armes à feu. Lui, il fait des affaires en or comme il n'en a jamais fait dans le passé parce que toutes ces armes-là n'étant plus accessibles sur le marché, n'étant plus volables et criminalisables non plus, mais le marché noir connaît un bond qui est incroyable. Donc, nécessairement, on permet à beaucoup plus d'armes à feu de prendre les rues, des armes à feu qui sont non traçables, qui passent généralement, qui sont importées de l'autre bord de la frontière, qui sont des armes criminalisées, ceux qu'on retrouve sur les sites des méfaits. Alors, nécessairement, tu as quand même un facteur de cause à effet dans l'augmentation des crimes avec armes à feu. Mais je dirais que la principale cause de l'augmentation des crimes avec armes à feu puis de tous les autres styles de criminalité présentement, c'est l'inaction. C'est l'inaction ou l'action dans le mauvais bassin. Hein? On reconnaît le bassin de compétences des libéraux dans ce dossier-là comme étant nul et non avenu quand on les voit tenir des meetings de sécurité, le CQ meeting, donc le comité permanent sur la sécurité publique qui a été tenu longtemps, avoir des témoins experts et légiférer sur le fait que ce serait futile de cibler. Et ça, c'est le rapport final de la loi C-71. Il publie le fait que ce serait futile de cibler les propriétaires légitimes d'armes à feu parce qu'il a été démontré par des témoins experts et par non seulement l'industrie, mais tous les témoins experts des autres partis, que la criminalité provient des milieux criminalisés.
Mmh. Mais c'est surtout que vous suivez toujours les réglementations qui sont passées, contrairement à ces gens-là qui s'en foutent complètement puis qui en rient même. Ouais. Vous, normalement, pour pratiquer votre droit, vous les remplissez les formulaires, vous faites toute la paperasse, vous suivez le genre de quand tu prends ton arme à feu, tu pars de la maison, tu te rends au point, tu vas... Oui, tu as peut-être ton enfant à aller chercher à l'école, mais tu vas aller faire deux voyagements. T'sais, vous êtes toujours à l'écoute de ce qui est passé, mais vous êtes pénalisé là-dedans.
Ben, définitivement. Puis tu sais, là-dedans... Moi, je regarde toujours le bulletin de mes enfants à savoir si on fait des efforts ou pas. Puis le bulletin des propriétaires légitimes d'armes à feu dans les enquêtes, le profil, c'est en bas de 0,01% d'inclusion dans les crimes contre la personne. Mais ce qui est triste là-dedans, c'est que ces budgets-là, et c'est là où est-ce qu'on milite le plus fort, c'est que ces budgets-là qui sont mis sur notre tête pour nous désarmer auraient beaucoup de place pour aller réduire la criminalité dans d'autres sphères, au niveau frontalier, au niveau des comités d'enquête, au niveau des forces policières, que ce soit fédérales, provinciales, municipales, toutes les unités élites d'intervention sur le terrain, comme Centaure, qui sortent vraiment de la criminalité des rues. De regarder ce que le sénateur Pierre-Hugues Boismenu a posté cette semaine, les nouveaux chiffres au niveau de l'augmentation de la criminalité. Là. Dans les 10 ans qui viennent de passer, donc les derniers mandats des libéraux...
Martin, c'est les 10 ans où les propriétaires d'armes à feu ont été de plus en plus restreints année après année. Donc, techniquement, si les chiffres que tu me donnes devraient être exactement comme on pensait, c'est-à-dire une diminution des meurtres au Canada, une diminution des crimes par armes à feu, parce qu'avec tout ce qu'on a mis en place avec les libéraux puis avec l'aide de certains lobbies au Québec, on a fait suer comme pas possible les propriétaires d'armes à feu, tous les chiffres ont descendu.
Ben, et c'est pas ça qui se passe.
Ah.
Le bulletin, il est pas bon. Puis c'est pas juste au niveau de nos armes à feu. Puis je reviens à ce que je disais tantôt. On n'a pas le poing sur la table à dire « on veut protéger nos guns ». Non, on trouve aberrant que sous un gouvernement libéral, dans les 9 dernières années, les 10 dernières années, leur dernier mandat, malgré qu'on ait promis une protection au niveau sécurité publique en mettant des millions pour l'appliquer, on a des augmentations, puis tu les as devant toi, là. Crime avec arme à feu, 136% d'augmentation. Agression sexuelle d'enfants, 141% d'augmentation. Trafic humain, je ne savais même pas que ça existait encore, 210% d'augmentation. Les deux chiffres les plus élevés dans la protection dans laquelle on devrait mettre de l'argent, les forces policières, là. Extorsion de personnes âgées, augmentation de 429%. Pornographie juvénile, augmentation de 565%. Si tu regardes ce bulletin-là et que tu n'es pas en sacrement qu'un gouvernement mette des sous pour aller chercher des armes à feu qui ne commettent pas de crime au lieu de les mettre dans ces bassins-là, dans ces préoccupations-là, je sais pas quoi dire.
Mais d'habitude, moi, je suis un peu délicate quant à ce genre de comparaison-là. Je suis sûre que tu vas comprendre mon point, Martin, de me dire, bon, ben là, parce qu'on s'attaque à un groupe, le groupe est en train de revendiquer qu'on ne s'attaque pas assez à d'autres groupes. Mais... j'ai tendance à te donner raison, puis ça va vraiment outre mon discours habituel là-dedans. Pour ce qui concerne votre réglementation, de vous taper sur la tête, j'appelle ça du capital politique en ce moment.
Oui, ah oui, ça a toujours été ça.
Bien, c'est très sûr que tu pars en campagne électorale. Qu'est-ce qui est le plus payant? De mettre des pancartes sur lesquelles tu dis que tu vas réinstitutionnaliser les gens qui sont en détresse psychologique? Ou de mettre sur des pancartes que tu vas désarmer le peuple canadien pour assurer la sécurité dans les rues. Ça s'arrête là.
Oui, puis là, on parle pas de gens qui revendiquent, ou mettons, d'avoir une arme à feu tout le temps sur soi, comme dans certains États aux États-Unis. On n'est pas là, puis on veut pas ça. Là on parle de vous empêcher de vivre d'une manière convenable comme vous le faites.
Non, c'est tout le temps des moments ciblés dans l'histoire. On va prendre des moments où il y a eu des tragédies, puis on va former des lobbies pour que ne plus jamais que ce type de tragédie-là arrive. Et là, on va commencer à aller rencontrer le gouvernement pour dire, vous savez, le lobby des armes au Canada est très fort, il y a beaucoup de propriétaires d'armes à feu, il faudrait légiférer. Puis là, ben, tu te sens mal parce que, je veux dire, ils se basent eux autres sur une tragédie pour faire avancer leurs affaires.
En même temps, il faut qu'ils commentent, mais on a vu souvent du capital politique.
Tu joues pas avec des experts qui connaissent c'est quoi les armes des chasseurs, puis à quoi ça sert ces armes-là. Puis là, tu passes des lois qui font en sorte que les chasseurs sont tout le temps brimés. Mais les chasseurs, c'est pas eux autres qui tuent des gens dans les rues de Montréal. Là.
C'est le point, là. Tu sais, quand ton propre comité d'experts, au départ de tout ça, reconnaît que la problématique provient de la criminalité armée, puis que sciemment, ton gouvernement majoritaire ou par coalition décide de mettre en place une réglementation sur les armes possédées par les propriétaires légitimes et de ne pas cibler la criminalité armée, ben, c'est une décision. Tu sais, Ne rien faire, c'est une action. C'est une décision de ne rien faire et ils n'ont rien fait de ce côté-là. Et c'est là où est-ce qu'on crie qu'à la limite, si tu veux réglementer, si tu veux mettre des cadres plus réglementaires dans, par exemple, l'attribution de permis, la vigile qui se fait aux 24 heures des propriétaires de permis de possession, acquisition d'armes à feu, l'appel des ex-conjoints, etc., dans le renouvellement de ces permis-là, d'augmenter la sécurité qui entoure le fait de donner un permis à quelqu'un ou de permettre à quelqu'un d'avoir des armes à feu, on est les premiers embarqués pour faire oui à 100 %. Mais si tu t'en viens inutilement à mettre des fonds-là et que tu ne touches pas à la criminalité armée, eh bien, j'ai un gros, gros problème. Et ça, on est le premier bassin, les propriétaires légitimes d'armes à feu qui ont goûté à cette espèce de poutine-là, où est-ce qu'on reconnaît la problématique, mais on ne la cible pas du tout, on s'en va complètement ailleurs, où est-ce que c'est payant sur le plan électoral. Parce qu'après ça, il y a eu les ajouts de loi C5 qui permettent les peines Netflix, les peines en collectivité pour ceux qui commettent des crimes avec armes à feu, trafic de drogue, s'ils font partie des Premières Nations ou des minorités visibles, pour en limiter la surreprésentation en milieu carcéral. On a l'allègement des libérations conditionnelles, puis on voit les récidives arriver cul par-dessus tête, ouais. On voit les chiffres grimper à côté d'embarrure.
C'est permettre aux gens, Martin, de purger leur peine à domicile. Là, effectivement, au départ, on avait mis ça en place pour les gens des Premières Nations, puis les gens de race noire. Oui. Mais le problème, c'est que le juge ne peut pas faire une différence de couleur entre les individus qui sont devant lui, ce qui fait en sorte que blanc comme noir, comme jaune, se ramasse à purger des peines à la maison. Exactement. Mais souvent, la victime peut habiter à quelques pas de cette dite maison-là, ce qui fait en sorte que tu sais que ton agresseur est pogné 2 ans dans sa maison. Mais toi, tu habites juste à côté et tu risques de le croiser, tu risques de passer peut-être même devant chez lui à chaque jour pour aller travailler. T'imagines ce qu'on a mis en place avec les libéraux, c'est ignoble.
Ce qui nous fait capoter dans notre cas, c'est que depuis l'application de la loi C5, le nombre de trafiquants d'armes à feu qui sont capturés dans l'histoire de la C5 parce qu'ils ont été justement renvoyés chez eux pour purger leur peine en collectivité et qui sont des trafiquants d'armes à feu, nous autres, on crie haut et fort là-dessus. Hey! Vous avez promis de protéger les rues contre le crime armé. Là, vous capturez des cas très, très, très représentatifs de comment faire un contrôle de la criminalité armée. Vous les renvoyez chez eux. Ce sont des trafiquants d'armes, tabarouette. Ça, c'est de la façon dont on gère. Alors, quand on me dit qu'on va protéger les rues, je regarde les chiffres, le bulletin des 10 dernières années, donc des derniers mandats des libéraux. Ça me fait pas mal capoter.
L'argent qui est mis pour être un peu dans le coercitif, je me rappelle toujours un discours que tu as eu en onde avec nous en disant que tu as déjà appelé la police par rapport à quelqu'un que tu aimais profondément, un proche et autre, qui avait eu des propos particuliers, pas qu'il voulait s'en prendre à des gens, mais que son état mental n'était pas au top.
Oui.
Puis tu avais dit, cette personne-là a des armes chez elle. Jamais je peux penser en ce moment qu'elle va commettre un acte X, mais je sais qu'elle va pas bien. Fait que je vais m'assurer par l'intervention policière que cette personne-là soit en sécurité pour elle, pour sa famille, pour les autres.
Oui,
ça, je pense que ça vaudrait un investissement à la limite publicitaire versus une réglementation supplémentaire pour des gens qui ont des armes à feu à la maison. C'est là où je vois une grande pertinence, puis c'est plus dans ton discours qui est humain, qui est de tisser un filet social autour de nos proches, puis de s'assurer qu'on ait une conscience, tous et chacun, qu'on ait des armes ou pas, tu sais.
Dans la même optique que pour le suicide, c'est une responsabilité collective. Si j'observe quelque chose qui ne va pas bien, je devrais l'adresser. Et ce cas-là que tu rapportes, ce n'est pas la seule fois que j'ai eu à faire ça alentour de moi. Par contre, ma première approche est toujours de prendre le téléphone ou d'aller voir mon ami et de lui dire, écoute, ça ne va pas bien présentement. Tu es sur le bord d'un divorce, vous êtes émotivement tous les deux très impliqués. Il peut y avoir des plaintes d'un côté ou de l'autre. Tu risques de toute façon de te faire saisir tes armes à feu par la police. Alors, je vais te l'offrir avant qu'il se passe quelque chose. Je vais prendre tes armes à feu, je vais les amener chez nous, je vais les ranger sécuritairement. Puis quand tout ira bien, puis on aura pris un bon café ensemble, puis je suis sûr que tu es rendu à ravoir tes armes à feu, je les redonnerai.
Lorsqu'il
y a l'opposition, puis que les émotions augmentent et escaladent, bien définitivement, il y a un signalement qui se fait à la police. Et ça, c'est une responsabilité collective. Ouais.
Puis en terminant, Martin, là, tu sais, quand on regarde ça, quand vous devez aller vous exprimer devant les politiciens pour leur expliquer comment ça se passe du côté des chasseurs avec les armes à feu et tout ça, puis de l'autre côté, tu as une personne qui est inscrite au registre des lobbyistes, Reyes, qui est une survivante d'une tragédie absolument épouvantable qui s'est passée dans le secteur de Montréal. Et là, elle est avec les émotions. Elle fait réagir aussi les politiciens avec émotion. Puis toi, qui tente de rester dans le rationnel, ça ne doit pas être évident en débat, là. Parce qu'elle, elle a vécu quelque chose que nous autres, on n'a jamais vécu.
Et pour lequel on a de l'empathie, tu sais.
Ben oui.
La compassion.
Ah oui, écoute. Et que toutes les familles de la Polytechnique lui somment d'arrêter et de les laisser faire leur deuil. Mais ce qui est le plus frustrant là-dedans, c'est que cette personne-là se pointe au pupitre. On ferme tous les autres micros, puis on laisse la personne s'exprimer puis couler ses larmes de A à Z dans son discours. Une fois que nous, on entre au micro, là, les micros sont tous ouverts et sur la demi-heure qu'on a, on a peut-être deux mots, on a deux minutes où est-ce qu'on nous attribue la parole. Le reste du temps, on sort des extraits de journaux, des extraits de web, etc. pour nous discréditer. Donc, la liberté d'expression en comité comme ça, elle n'est pas objective du tout, du tout, du tout. Il y a un parti pris net et important. Et on en voit la confirmation par le fait que Nathalie Provost vient d'être placée dans son comté à Châteauguay comme potentiellement futur ministre ou encore lieutenant libéral au niveau du contrôle des armes à feu.
Lâchez pas, les chasseurs, pêcheurs.
Yes. Un gros merci, gang.
Salut, bye-bye. Martin.
Un gros merci. Martin, si on veut te voir à la télé, on veut t'entendre, on veut aller sur tes réseaux sociaux, on te rejoint comment?
Tous les jeudis soirs à 21h sur les ondes de Télémag, c'est l'émission Aventure Chasse-Pêche, mais évidemment, la majorité des jeudis soirs, à partir de 19h30, 20h, on est pas mal tout le temps en live sur les réseaux sociaux, là, juste avant l'émission, puis on écoute généralement l'émission avec vous autres. C'est le fun parce qu'on reste la gang ensemble, puis on commente, on peut répondre aux commentaires et aux questions en même temps. Donc, c'est les meilleures façons de nous joindre.
Quand tu vas aller faire un trip avec eux, Yannick, là, un jour, je sais que tu vas te déniaiser, puis tu vas y aller, ben tu vas pouvoir vivre cette émission-là en live avec eux.
Ben voilà, ben oui, et tu l'as dit, un jour. Mais c'est parce que je demande tout le temps à y aller, mais sans Martin, juste avec Kate, puis il veut pas.
Ben c'est sûr, ça fait un peu plus bizarre quand c'est l'animateur principal, ils doivent se poser des questions.
Oh, il y a ça, là. Kate est capable de faire l'émission complète toute seule. Salut, ouais, Martin.
C'est bon.
Bye-bye. L'excellent Martin Bourget, notre chroniqueur chasse-pêche. C'est sûr que ça doit être assez poche pour les chasseurs, des fois, qui se voient privés de leurs propres armes à feu parce que des politiciens prennent des décisions, parce que ces gens-là ont de l'information qui est un peu biaisée par le fait que c'est des victimes qui ont vécu des trucs qui sont absolument épouvantables. Puis t'as l'autre qui est à côté qui essaie d'être rationnel en disant « Oui, mais la majorité des armes à feu qui sont dans nos rues proviennent des États-Unis. C'est des gens qui n'ont pas obtenu leur permis d'armes à feu de façon légale. »
Les imprimantes 3D, ben oui. C'est un fléau depuis plusieurs années. Puis tu sais, mettons, je connais pas Martin Bourget, je l'entends en ondes et tout ça. Est-ce que je pourrais effectivement être un peu pollué de la façon positive et de la façon négative par un discours émotif? C'est sûr que oui, dans le sens où s'il vient après un discours émotif, voyons, c'est sûr que ton cœur est plein pour la personne qui était prise de cette tragédie-là, qui a scrappé sa vie. Mais Martin Bourget, par contre, je suis capable de dire que dans n'importe quelle catégorie, tu as du monde qui sont biaisés, qui ne sont pas capables de faire la part des choses parce qu'ils sont aussi émotifs quant à leur sport, leur passion, leur possession, leur ci, leur ça, peu importe le regroupement. Sauf que lui est capable de faire la part des choses. Fait que j'aimerais ça qu'on ne le traite pas de cette manière-là parce qu'il va être autant capable de défendre une personne éplorée puis de la comprendre que de dire « Oui, mais dans cette tangente-là des armes à feu, ben on est en train de nous... barré pour rien.
Exact. 418-971-101, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, nous autres, on s'en va en musique. Jean Leloup, I Lost My Baby sur Boulevard. I Lost My Baby.